Il avait 16 ans quand il fit la connaissance au lycée Fresnel à Bernay d'un certain Vincent Delerme qui cherchait un bassiste pour le groupe qu'il souhaitait fonder, Les Tristes Cygnes. Mais il aura fallu attendre près de 20 ans pour que Thomas Brenner, ayant perdu son père et son emploi, pour que cet artiste diepois se lance dans le grand bain de la musique. En résulte un premier album, Lupanarchique, sorti en 2019. Il nous revient cette année avec l'intrigant braquage de la place Vendôme et autres histoires fascinantes où chaque chanson est une histoire, des tranches de vie avec quelques références cinématographiques dont ce passionné a le secret. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Normand. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Brenner. Bonjour!
Bonjour!
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, très content d'être là.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on se trouve au Café d'Époque, qui est un bar qui est très ancien d'ailleurs, qui a été, je le dis au passage, ouvert au 19e siècle. Hein, il existe depuis 1897, une belle institution rouennaise. Alors si on te reçoit aujourd'hui, Thomas, c'est parce que tu as sorti ton dernier album, qui s'appelle « L'intrigant braquage de la place Vendôme et autres histoires fascinantes ». J'ai cru que je n'allais pas réussir à le dire jusqu'au bout.
Bravo.
Il est sorti donc le mois dernier et donc le 26 janvier, c'est ça. Tu as été au Trianon Transatlantique à Sotteville. Tu avais par ailleurs sorti ton premier album qui s'appelait « Lupanarchique » et qui est sorti en 2019.
C'est ça, 2019.
Alors, comme d'habitude au podcast Normand pour ceux qui connaissent, on va un peu tirer le fil parce que comme je te l'ai dit hors antenne, beaucoup de mes auditeurs ne te connaissent probablement pas. Donc ce que je te propose, c'est qu'ensemble, on apprenne à te connaître.
Ouais, volontiers.
Comme tout être humain, tu nais à Rouen.
Oui, je nais à Rouen le 14 mars 1976.
Ouais. Et tu... toujours vécu en Normandie la plupart du temps de ta vie?
Ouais. Je suis né donc à Rouen, j'ai grandi dans les méandres de la Seine, dans un petit village en face de Jumièges qui s'appelle Heurteville.
Ouais.
Et ensuite, à l'adolescence, je suis parti vivre dans l'Eure.
Beaumont-le-Roger.
D'abord à Broglie.
D'accord.
Et puis à Beaumont-le-Roger.
D'accord.
Et ensuite, je suis parti faire mes études à Caen.
Ok.
Et j'ai travaillé, commencé à bosser sur la Normandie et puis j'ai fait un petit interlude en région parisienne.
D'accord.
Et ça m'a pas du tout plu, donc je suis revenu.
T'es revenu à la maison.
Voilà. Et maintenant, j'habite à Dieppe.
D'accord. Mais un Normand ne quitte jamais vraiment son...
Non, c'est ça. Ouais. Exactement. Il n'est pas bien.
Il a trop la pluie.
Ouais, voilà, exactement.
Et parce qu'on y reviendra, tu as fait ton lycée à Bernay.
Oui.
Et justement, quand je dis on y reviendra, justement, c'est parce que c'est là que beaucoup de choses commencent pour toi, musicalement. Mais avant ça, la passion pour la musique, t'es venue comment? En fait, t'as toujours voulu jouer parce que...
Eh bien, ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est mon premier concert.
Ouais.
Mon premier concert quand j'avais 6 ans. Je suis dans la salle et je vois un artiste qui s'appelle Bill Durham, qui est devenu par la suite mon idole, qui a pris sa retraite il y a quelques années. Et c'était à Yvetot. Et 1982, et je me dis, pendant le spectacle, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, les jours d'après, j'ai joué à Bill Durham devant la glace, quoi.
Et c'est là qu'on se dit, mon Dieu, mais j'ai une révélation, c'est le but de ma vie.
Non,
c'est,
ouais,
rêve,
c'est mon rêve. J'ai pas tout fait pour faire ça. C'est mon rêve. J'adorerais faire ça, mais.
Mais tu t'es mis un plan B au cas où, parce qu'on dit la chanson.
Ah oui, non, mais c'est même pas. C'est-à-dire que quand j'ai grandi, je me suis dit, c'est inaccessible, en fait.
Ah oui.
Je suis pas issu d'une famille de musiciens. Voilà. J'ai commencé le synthé. Mes parents m'avaient offert un synthé. J'avais 12 ans. Hein. Donc j'ai fait un peu de synthé. Et puis, au lycée, donc après, les choses ont un peu changé, mais ouais. Je me suis jamais autorisé à être vraiment, à me lancer dans une carrière.
Ouais.
Ce n'était pas du tout le...
Mais on va peut-être faire une légère digression, mais à partir de quand tu t'es dit finalement, allez, je m'autorise à...
À 38 ans.
Ah ouais, c'est 38 ans, donc ça fait 2014.
Ouais, 2014, ouais.
C'est ça.
Et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai... Licenciement économique et la perte de mon père, c'est deux événements qui m'ont transformé et je me suis dit les choses tournent tellement vite et de façon tellement brutale que j'ai pas envie d'avoir ce regret-là de ne pas l'avoir fait.
Alors
Justement, on va revenir un peu à la période lycée, qui est quand même charnière pour
oui,
toi.
oui.
Donc, si tu me dis si je me trompe, hein, on fait des erreurs hein, parfois. Tu as 17 ans, on est en 92, si ma mémoire
Ouais,
est
ouais.
bonne. On est au lycée Fresnel, à
Ouais.
Bernay.
J'ai 16 ans.
16 ans.
Ouais, j'ai 16 ans et j'ai un copain qui habite le même village que moi, Beaumont-le-Roger, et qui entend parler que je fais un peu de musique avec d'autres gars de mon
Ouais.
d'autres copains. Et il me propose d'être bassiste de son groupe qui vient de monter. Ils sont deux ou trois.
Qui
Ils cherchent un
s'appelle
bassiste.
Triste Cire.
Ils s'appellent ça, le groupe s'appelle Triste Cire. Et le copain en question, c'est Vincent Delerme.
Ouais. Qui aujourd'hui a la carrière magnifique,
qu'on connaît.
Magnifique qu'on connaît. Hein. Qui d'ailleurs, il faut le préciser, il était présent, Trianon Transatlantique.
Tout à fait.
Effectivement.
Ouais. Ouais, Vincent, c'est un copain donc de longue date. On se connaît depuis qu'on a 14, 15 ans.
Ouais.
Et Vincent, on a fait un duo sur le premier album,
ouais.
Lupin Archique, donc sur une chanson qui s'appelle L'Infirme de Frankenstein. Et donc il est venu au Trianon Transatlantique pour faire ce duo avec moi. Et puis on a fait un autre duo pendant le rappel, La Nuit du Jugement, une reprise de Bachung.
Bachung.
Et j'avais fait sa première partie au 106 aussi.
Mais justement, parce que c'est ce que tu dis aussi, après ce groupe, la vie fait qu'il y a des éloignements et Vincent Delerme a la carrière qu'on connaît, donc forcément, bah, il est très occupé. Très sollicité. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à son père, Philippe Delerme, qui est un grand écrivain que j'ai lu également, donc je le dis au passage.
Et sa mère est une grande illustratrice aussi.
C'est vrai. Mais et en fait, du coup, puisque tu parles de ça, tu parles des rapports humains, est-ce qu'on arrive à garder des contacts réguliers, à se voir ?
Alors, Vincent, c'est pas quelqu'un que je vois régulièrement. On échange de façon très, très espacée dans le temps, mais on a un lien indéfectible. Enfin, c'est un lien sincère, indestructible. Voilà, on est
à travers la musique.
Voilà, pas qu'à travers la musique, soit humainement.
Plein de choses humainement.
Ouais, ouais. Donc on est très très proche par les liens qui sont là depuis très longtemps et à la fois très éloignés par la distance. Et
en fait, dans ce groupe Triste Cire, pour revenir, vous êtes trois. Et il y a un autre Vincent.
Il y a un autre Vincent, ouais.
Un autre Vincent. À ce moment-là, en fait, après, donc, il y a la vie qui fait son œuvre. Tu pars faire des études à Caen, c'est ce que tu viens de me dire. Et à partir de là, donc, en filigrane, tu continues à faire de la musique malgré tout ou...
Ouais, j'ai eu plusieurs groupes sur cette période-là. Alors, des groupes surtout de reprises de blues.
Ouais.
Blues rock, blues, British blues, ou, voilà, un peu de Chicago blues aussi. Et puis donc j'ai eu des groupes dans l'Eure, j'ai eu des groupes dans le Calvados beaucoup.
Ouais.
Et puis que j'ai arrêté quand j'ai.
Et vous produisiez où dans des
dans
bars
dans les bars ouais.
Dans des bars ouais.
Ah, j'ai fait beaucoup de bars, les bars, des restos.
Ouais.
Voilà c'est.
C'était comment on donne un petit cachet pour la soirée quelque
ouais,
chose.
Ouais alors soit le bar donne 100 balles et puis
ouais,
150 balles le repas la bière.
Ouais ouais.
Et voilà et ça nous à ce moment-là ça nous convenait bien ouais. Quoi.
C'était un peu c'est ce que je dis souvent à des personnes un peu l'avant The Voice ou.
oui ou finalement les gens
Star
sortaient.
Academy finalement.
Les gens sortaient pour découvrir des groupes ou alors justement venaient parce que c'était ce groupe-là.
Ouais.
Ouais, ouais.
C'est un peu presque finalement, j'ai envie de dire, une école de la vie, non ?
Bah, c'est
on apprend un peu directement sur le tas et finalement, on ne sait pas si ce qu'on va faire va plaire ou
ah bah,
ne pas plaire.
Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, c'est beaucoup de. Moi, j'ai toujours eu ça dans la musique, c'est le partage avec les copains musiciens, parce que
ouais.
je ne joue qu'avec des gens avec qui je m'entends très, très bien. Et le rapport humain est extrêmement important. Et donc, du coup, le concert, dans un bar ou dans un resto, tu doutes que tu vas probablement pas être écouté par tout le public présent.
Bien sûr.
Et que, de toute façon, et tu vas passer un bon moment parce que tu auras joué avec ces personnes-là.
Est-ce que tu te rappelles d'un lieu, d'un bar en particulier qui a un symbole pour toi ?
Bah, à Caen, ouais. C'est le bar le Newport qui est sur le port à Caen et dans lequel j'ai pas mal joué. Et qui était un bar vraiment sympa et qui nous prenait souvent, quoi. Donc, ouais, ce bar-là, c'est.
Et. Justement, je fais un saut dans le temps, mais qui est, parce que quand je parlais aujourd'hui, le fait de vivre de la musique, quand j'en parlais de ça tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui tu vis pleinement de la musique?
Non,
c'est
pas
quelque
du
chose
tout.
Qui est un peu, tu fais, on peut te demander ce que tu fais à côté?
Ah, je suis délégué médical.
OK.
Donc on va dire du lundi au vendredi, je suis délégué médical.
OK.
Donc je travaille pour un petit laboratoire familial niçois.
Ouais.
spécialisé en ophtalmologie.
Ok.
Et puis le samedi, je suis kinésiologue, c'est-à-dire que je m'occupe du bien-être et des émotions bloquées des gens qui viennent me voir.
Ouais.
Et la musique, c'est je casse ça entre deux.
D'accord.
Donc, voilà.
Mais justement, la musique est aussi un moyen de libérer des émotions coincées.
Ah, pour moi, exactement.
Voilà.
Ouais. La musique, pour moi, elle me permet de raconter ce qui se passe un peu dans ma tête quand les notes m'envoient dans une histoire, quoi, dans une ambiance, dans une émotion.
Ouais. Mais justement, dans ton dernier album, tu parles de certains thèmes, la trahison, l'abandon. Mmh. Moi, ce que je retiens surtout, c'est envie de dire la quête de sens. Est-ce que c'est un peu finalement, j'allais dire, l'être humain est-il en perpétuelle quête de sens?
Est-ce que c'est
de plus en plus difficile à trouver?
C'est une question qui est vraiment, qui revient souvent dans notre société actuelle, la quête de sens, la quête d'identité,
qui est une,
à mon sens, une vraie question et qui repose aussi sur la recherche de valeur, la valeur des choses, la valeur des sentiments, la valeur des relations humaines. Et cette quête de sens, elle est beaucoup présente parce que elle est présente aussi chez moi.
Oui.
Quel sens
de quel est ton regard justement sur la société d'aujourd'hui, de la quête de sens et des valeurs?
Il y a un mouvement de fond, enfin une pensée de fond qui dit que les choses vont mal et que c'était mieux avant, etc. Et sur ce sujet-là, je trouve qu'au contraire, il y a une prise de conscience quelque part que les choses ne vont pas et qu'on va pas forcément dans la bonne direction et que chaque individu, on dit que la société est de plus en plus individualiste. Quelque part, on cherche à donner du sens à l'individu dans le collectif. Chaque individu essaie de trouver sa place dans le collectif. Et quelque part, on refuse l'idée de se fondre dans la masse. Et quelque part, je trouve ça intéressant. Ça me paraît un peu une démarche un peu salvatrice.
Quoi particulièrement comme démarche salvatrice, une quête de sens particulière à essayer de s'extraire du groupe?
De comprendre quel est notre rôle dans cette société-là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait de notre peau? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Comment on se rend utile? On traverse cette vie, on traverse. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
Ce que tu dis résonne en moi, parce qu'en fait, les gens le savent, mais avant de fonder le podcast Normand et de faire ce que je fais, je suis passé aussi par cette quête de sens, c'est à savoir quel était mon talent et comment en fait je pouvais me rendre en tout cas plus utile que je ne l'étais pour la société. Et en ça, finalement, je pense que ton travail en fait touche tout le monde.
Je l'espère. C'est un beau compliment que tu me fais en tout cas.
Mais je crois, puisque de prime abord, si on est honnête, c'est ce qu'on aurait tendance à se dire, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien démontrer, c'est ce que je t'ai dit en tête, on a tendance à mettre les gens, les artistes, dans des cases, en fait, en disant, ah, mais tel type d'artiste, tel type de mélodie, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Mais en fait, il y a toujours quelque chose pour tout le monde. Au moins, en fait, dans une chanson où il y a toujours quelque part, ouais, quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, mais et il y a quelque chose où en tirer, et chaque personne a son message en fait à faire passer. Et je tiens à dire, c'est ce que je te disais, parce que moi je fais mes compliments hors antenne mais aussi pendant que je parle, quand on t'écoute, alors je vois effectivement des influences de Bachung, un peu de Biolay, un peu de Dutronc. Certains disent Dutronc, moi je trouve pas. Mais Bachung et Biolay, oui, sans doute. Après, Gainsbourg est tellement inclassable pour moi que, Mais en fait, on écoute du Brenard. Quoi.
Mmh.
Et je pense que, justement, est-ce que tu ne penses pas, finalement, que tout va finalement un peu trop vite et que on prend plus vraiment le temps, en fait, d'écouter un message ou de se poser. Enfin, quand tu dis qu'il y avait, en sorte, on voit qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la bonne direction? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux?
Alors là, c'est une vaste question, parce que ta question, elle est très, très large.
Oui, excuse-moi.
Mais en termes de musique, en termes de quoi tu veux...
Après, moi, ma question, elle est au sens large. Je ne t'invite pas à un débat politique, parce que le podcast Normand n'est pas une
apolitique,
émission politique. Il est apolitique. Mais... au sens musical d'abord, Et ensuite, pourquoi pas, on élargit.
En sens musical, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on ne prend plus le temps d'écouter les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept d'album n'existe quasiment plus. Et moi, j'ai voulu faire un album. C'est-à-dire que l'intrigant braquage de la place Vendôme et autres histoires fascinantes, déjà rien que le titre indique que je ne veux pas rentrer dans une case et que j'ai construit quelque chose. J'ai construit, et tu vois, j'allais dire la jeune génération, mais je pense qu'il touche en réalité plein de générations, c'est qu'on skip beaucoup les titres.
On scrolle.
Voilà, et on reste pas, on n'arrive pas à aller au bout du truc, quoi. Et donc, écouter un album qui fait ne serait-ce que 10 titres, une demi-heure, 40 minutes, c'est trop long, quoi, pour cette génération. Et c'est en ça que tu as raison, c'est qu'on ne prend plus le temps de comprendre et de rentrer dans un univers. Moi, j'invite à rentrer dans l'univers, j'invite l'auditeur, mais dès le départ, dès le titre de l'album, dire je vous raconte des histoires. Venez, c'est comme un livre d'histoire. Je sais pas si t'as connu quand t'étais petit les livres de Marlène Jobert.
C'est ça.
C'est un peu ça.
Ouais.
Venez, écoutez, posez-vous. Ok, posez-vous. On respire, on est là, on est bien.
Ouais.
Et on vient écouter un titre, un album et un titre l'un après l'autre.
Voilà. Et chaque titre est d'ailleurs une histoire.
Voilà, chaque titre est une histoire. Je vous raconte des histoires. Venez dans mon univers. Ah, il y a des gens qui vont accrocher, d'autres qui vont pas accrocher, peu importe, mais prenez le temps d'écouter le truc.
Mais c'est justement ça, en fait. J'ai envie de te dire, tu m'as fait sourire, honnêtement, parce que je suis toujours très honnête. Quand tu me parlais, les gens n'écoutent plus forcément un album et des scrolls. Je pense que même un EP est déjà, en fait,
trop long, en soi. Voilà. Donc, c'est ça qui a changé dans le rapport avec la musique. C'est-à-dire qu'on prend plus le temps, on ne prend plus le temps d'écouter, on n'en prend plus le temps peut-être d'aller découvrir en live aussi des artistes qu'on ne connaît pas. Ça devient peut-être un peu compliqué, alors que foncièrement rien n'a changé. Et après là, prendre son temps, si tu veux ouvrir ta question sur la société et que les choses vont trop vite, etc. Je crois sincèrement que le rythme, et ça on va rejoindre un peu la quête de sens. Le rythme de ta vie, le rythme de ton projet, tu en es le maître. Et finalement, c'est toi qui imposes ton tempo.
Mais c'est vraiment le cas aujourd'hui ?
Ouais.
Je pense que...
Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais les choses comme je les imagine, comme j'ai envie de le faire. Et je prends le temps de le faire. Voilà. Après, on peut répondre aussi à des injonctions sociétales qui font que
c'était le sens de ma remarque.
On est un peu pressé et...
parce que de ma perception, en fait, ce que j'ai toujours l'impression, c'est qu'en fait on est un peu happé par une sorte de pression sociale qui nous pousse. C'est un peu ce que tu disais, on a plein d'abonnements partout. En fait, notre cerveau est toujours sollicité par plein de choses. Il y a des termes pour ça sur Netflix, c'est du binge-watching, binge-listening. Et en fait, encore une fois, j'y reviens, mais comme on veut consommer, on a l'impression qu'on est toujours happé par quelque chose.
Mais c'est-à-dire que quand tu réponds à ces sollicitations-là, effectivement, tu n'es plus maître de grand-chose.
C'est ça.
Et tu ne prends plus le temps de... En fait, on fait tellement de choses qu'on ne fait rien en même temps. On ne peut pas aller au fond des choses.
Ouais.
Et ça, libre à nous de répondre à cette injonction-là ou non.
Oui.
Rien ne t'empêche de te désabonner.
Voilà.
Rien ne t'empêche de faire du tri dans « Ok, ça compte vraiment, ça compte pas. »
On doit faire du tri dans nos vies aujourd'hui.
Ouais, je pense qu'il faut... Mais je pense qu'il y a un mouvement comme ça qui est de plus en plus sur le... Moi, j'ai un fils qui travaille sur son projet de designer aujourd'hui. Ouais. C'est de retrouver comment justement immerger l'auditeur dans l'écoute d'un album, dans l'écoute de la musique. Aujourd'hui, on entend la musique. Là, on est au café de l'époque, on entend la musique dans les enceintes du lieu, mais on ne l'écoute pas, on l'entend.
Parce que la musique est aussi un élément le son, j'allais dire, finalement, est un élément, en fait, du quotidien.
Ouais, c'est devenu banal, en fait. C'est devenu banal, ça accompagne nos gestes du quotidien, voilà, mais... Est-ce qu'on écoute la musique, non ?
Bah, disons qu'à l'époque, bah, je reviens, mais même avant, hein, 80, 90, mais même avant, tu allais chercher ton CD ou ton 45 tours. Il y avait une action, c'est-à-dire tu aimais l'artiste, tu te rendais dans le magasin, tu allais chercher ton CD et ton 45 tours et tu n'avais que ça, en fait.
Oui, c'était vrai aussi avec les CD. Voilà. Tu pouvais faire la même chose avec les CD, avec tout ce qui était physique, finalement.
Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on t'a tellement ouvert de choses que finalement...
T'as trop de choix.
Voilà.
T'as trop de choix, tu le choix.
C'est trop de choix. Je crois que sur Spotify, tu as 4 millions de titres différents. Voilà.
Et sur Netflix, t'as je sais pas combien de séries. Et sur d'autres plateformes de vidéos, voilà, idem. Donc tu peux même pas passer une vie entière à écouter, à regarder. Il faut faire des choix.
À choisir. T'aurais préféré être artiste dans les années 80 ou être artiste aujourd'hui, c'est bien.
Ouais, il faut prendre les choses comme elles sont. Je n'ai pas été artiste dans les années 80, ni dans les années 90, ni dans les années 2000 ou 2010.
Ouais.
Allez, j'ai commencé ma carrière en 2000. Enfin, le premier album est sorti en 2019.
Ouais.
Donc voilà, les choses sont comme ça. Est-ce que ça aurait été mieux avant? Il y a plein de gens qui me disent que probablement si mon premier album était sorti 10 ans avant, voilà, j'aurais eu une autre trajectoire. Mais en fait, les choses arrivent comme elles arrivent. Il ne faut pas trop se poser de questions, sinon ça rend malheureux, quoi.
Oui, non, je pense que tu as raison. Mais justement, alors je voulais aborder, parce que quand je regarde où on en est, ouais, c'est ça. Je voulais aborder deux choses encore dans la dernière partie de cet entretien-là. Donc, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en préambule, on va un peu creuser. T'es revenu en fait à la musique en 2014.
Ouais, c'est là que je me suis dit, il faut que je réalise ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, quoi.
Parce qu'en fait, c'était vraiment un souhait intérieur que t'avais gardé et que tu avais parlé avec ta famille.
J'ai toujours fait de la musique. Alors, j'ai toujours écrit des textes.
Ouais.
J'ai écrit des chansons, mais que je faisais écouter à personne.
Ouais.
Je faisais ça sur mon ordinateur ou au départ sur des petites pistes.
Et pourquoi à ce moment-là, tu les écoutais à personne? Parce que tu dis, ça n'en vaut pas la peine.
Ouais. Je me disais, voilà, je fais ça pour moi, ça me fait marrer. Et puis, c'était mal enregistré, c'était mal exécuté. Je suis un autodidacte, mais j'ai jamais pris le temps de travailler un instrument. Mes paroles, bon, je me disais, qui ça va intéresser? Donc, même mon grand frère, je lui faisais pas écouter ce que je faisais, quoi. Quand j'ai sorti mon premier album...
Il a découvert en même temps
Un petit peu avant quand même, mais il y a des gens de ma famille qui ont découvert que je faisais de la musique à la sortie de mon premier album, quoi.
Ah ouais, en fait, tu y étais depuis...
Et ce que je dis toujours, le premier album, Lupin Anarchique, c'est un genre de best-of de tous les albums que j'ai pas sortis en 20 ans, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a dedans des chansons qui datent des années 90.
T'as tout sorti, tu vas où? Tu vas ressortir un autre album à base de chansons que t'as fait dans les années 90?
Non, parce que j'ai déjà fait un tri sur ce qui me semblait intéressant, pas intéressant à sortir. Donc, j'ai mis de côté pas mal de trucs,
ouais.
J'ai mis à la benne. Et non. Le prochain album sera un album contemporain, quoi.
Justement, donc on a parlé de ta date que tu as faite au Trianon Transatlantique le 26 janvier dernier. Donc, j'ai dit, tu as fait un duo avec Claire, notamment.
Claire Roignan.
On a reçu et qu'on adore et qu'on embrasse chaleureusement.
Bien sûr.
Et elle revient quand elle veut. Elle le sait, je lui ai dit. Est-ce que tu as d'autres dates qui sont prévues, d'autres concerts qui sont prévus ou festivals ou...
J'ai un festival là, au mois de mars, le 16 mars, du côté d'Evreux, Saint-Sébastien de Morson. C'est la première fois que ce festival a lieu.
D'accord.
Donc, je ne sais pas s'il porte un nom particulier, ce festival.
Je le mettrai.
Voilà. Donc, je sais que c'est le 16 mars et c'est la prochaine date. Après, il y a des dates qui vont arriver, mais...
D'accord. Tu tournes un peu cet été, le festival d'été.
J'espère bien.
Ouais.
Voilà, je ne veux pas avancer des dates qui ne sont pas encore sûres.
Ouais, pas encore sûres, mais en tout cas, on va te retrouver forcément à un moment donné...
J'espère.
Sur les routes pour que tu puisses... rencontrer ton public.
C'est ça.
Tu le sais, dans le podcast Normand, on aborde aussi régulièrement, c'est le fondement de la ligne éditoriale, qui est toutes les problématiques relatives à l'accessibilité et à l'intégration des personnes en toute situation de handicap. Alors, modestement, avec tes mots à toi, j'aimerais que tu nous dises un peu ce que cette situation, en fait, t'évoque. Est-ce que tu as quelqu'un dans tes proches ou ta famille qui souffre de cette situation ou de ces problématiques et qu'est-ce que ça t'évoque en général avec toi?
Moi, ça me fait penser à ma grand-tante,
ouais,
qui a vécu avec ma grand-mère toute sa vie, qui était handicapée mentale et bon, sur la fin de sa vie, un peu handicapée physique, mais surtout handicapée mentale. C'est une fille qui a immigré de son pays, la Pologne, deux sœurs, trois sœurs qui se sont retrouvées en France et elle, handicapée, elle a travaillé Elle a travaillé en hôtellerie, elle était bonne à tout faire, quoi, donc ce qu'on appelle bonne à tout faire, dans un hôtel à Paris. Et je pense beaucoup à elle parce que elle était née en plus le même jour que moi.
D'accord, donc, qui est le, on
l'a dit, le 14 mars.
Le 14 mars, c'est ça. Ouais.
Et je pense beaucoup à elle parce que c'était de l'amour en bar.
Ouais.
C'était très très proche d'elle. Donc pour moi le handicap c'est elle, c'est son image.
Ouais.
Donc beaucoup de tendresse. Comme ça spontanément, je pense aussi à une journaliste lyonnaise, Poune, qui était venue m'interroger à la Boule Noire, qui est revenue souvent me voir quand je jouais à Paris. Elle était venue au concert de la Boule Noire. Et il se trouve que Poune, elle est en situation de handicap, et à la Boule Noire, pour accéder, c'est compliqué.
Ouais.
Et donc, elle m'avait posé la même question que toi. Elle m'avait fait la remarque que j'avais choisi un lieu qui n'était pas adapté.
Ouais.
Et je crois que j'y fais attention, quoi, maintenant.
Ben, je pense que c'est le message que j'allais te dire. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les artistes en général, quel que soit leur niveau de célébrité ou de reconnaissance ou d'exposition, fassent attention à ces problématiques-là, puisque moi, je pense en particulier, parce que j'ai fait beaucoup de petits cabarets parisiens, j'aime beaucoup l'ambiance de ces petites salles où on a un contact direct avec l'artiste, que ce soit un chanteur, un humoriste ou un comédien. Mais souvent, ces salles...
Le souci, c'est les lieux pas adaptés, quoi.
Il y a quelques soucis, puis de tout ce qui est haussmannien,
ouais.
On peut pas le modifier. Donc,
ouais, et puis je parlerai aussi un petit clin d'œil au copain de mon fils. Enfin, mon fils, il m'a rejoint sur scène avec ma fille, d'ailleurs, les deux, au Trianon transatlantique.
Oui.
Ma fille que j'embrasse tendrement. Et mon fils aussi, d'ailleurs. Mais justement, je parle de lui. Il joue avec son meilleur pote, son copain depuis qu'ils sont en primaire, qui s'appelle Will, qui est un guitariste malvoyant et qui commence à percer sur la scène, on va dire, scénomarine.
Oui.
Voilà, je pense aussi à lui. C'est un garçon qui vit pour la musique, par la musique, qui a été longtemps à l'INJA, donc l'Institut des jeunes aveugles de Paris, qui aujourd'hui voilà se lance vraiment dans la musique. Donc je pense à lui. Ça pourrait être un invité aussi pour une prochaine émission.
Avec plaisir. En contact. Avec plaisir. Oui, si tu peux me mettre en contact, je le recevrai.
Parce qu'il a une histoire particulière. Ouais. Ils ont déjà vécu des bons moments. Je sais que Will, hein, il a été le seul invité sur la dernière tournée, enfin l'avant-dernière tournée de Mathieu Chédid.
Ouais.
C'était le seul invité de la tournée, c'était à Rouen. Donc voilà, je pense à lui aussi. Voilà, cher Brian.
Avant de conclure, finalement, on a tous un rôle à jouer pour rendre la société, on peut dire, meilleure, plus inclusive, plus accessible. Quel rôle les artistes dans la matière? Surtout en matière de handicap, on a parlé accessibilité. Donc, il y a le point de vue technique. Il faut que ceux qui gèrent les salles rendent leur salle plus accessible dans le domaine de ce qui est faisable, parce qu'on n'est pas là pour faire de la démagogie. Je l'ai déjà dit, de dire qu'on va tout rendre accessible dès demain matin.
C'est pas possible.
Ne va pas. Moi, c'est un message que je redis avec force, puisque je reçois beaucoup de messages qui me disent, mais il faut que tu dises que ça aille plus vite. Oui. Alors. Bien sûr, évidemment qu'il faut que ça aille plus vite.
Là-dessus, l'artiste, il a pas 36 outils à sa disposition.
Oui.
Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire attention de choisir des salles qui soient adaptées. Alors, c'est beau sur le papier, mais quand tu es artiste et que une salle te programme et qu'elle n'est pas adaptée, est-ce que tu vas lui dire non? C'est compliqué. Et l'autre outil qu'on peut avoir, c'est d'être porte-parole. Mais pour être porte-parole, bon, aujourd'hui, il faut représenter quelque chose. Donc, je crois vraiment que l'artiste, à partir du moment où il a une certaine notoriété, qu'il touche un certain public, pour sensibiliser les gens, quel que soit le thème d'ailleurs, mais sensibiliser les gens, là, en l'occurrence, sur le thème du handicap, ça peut être de son ressort, ça peut être de son rôle de toucher les gens. De les sensibiliser pour que cette attention qui soit portée à ces problématiques.
Ouais.
Après, j'ai jamais pensé que l'artiste était un révolutionnaire de société, quoi. Les gens
contrairement à ce qu'on peut parfois voir
j'y crois pas tellement.
Ouais.
Et de toute façon, je préfère toujours la sensibilisation par la prise de conscience douce que par
leur revendication. Plutôt qu'une bienveillance forcée ou dire à des gens ce qu'ils doivent faire.
Ouais, exactement.
Mais justement, et j'en terminerai par là, évidemment qu'il n'est pas question de dire c'est plus facile quand on est un grand artiste et qu'on remplit des zéniths. Les zéniths sont autant eux-mêmes accessibles.
Oui, bien sûr.
La totalité des zéniths en France sont accessibles. En tout cas, je l'espère, je le crois.
Je pense que c'est même obligatoire.
Voilà. Mais bien évidemment, pour un artiste avec une moindre exposition, de devoir refuser des salles plus petites pour des questions budgétaires et de visibilité, c'est très compliqué. Et je crois qu'encore une fois, le message à lancer n'est pas de faire de la démagogie et ni d'envoyer du rêve en disant on va faire ça, ça, ça. Il y a beaucoup de contraintes. Et ce que je trouve déjà bien, c'est que on arrive en parler pour que petit à petit, en fait, des synergies puissent se créer. Eh bien, merci, Thomas Brenner, je vais y arriver. Ouais. Merci à toi, du fond du cœur, pour ce bel entretien. Je rajoute, et ça sera mon avant-dernier mot, puisque le dernier mot revient toujours à l'invité, que tu me corriges si je me trompe, mais en fait, Thomas Brenner, c'est ton nom de scène, ouais, puisque tu t'appelles en réalité Cédric Thomas,
ouais,
et Thomas Brenner, c'est le nom de tes deux parents.
Ouais, c'est le nom de mon nom civil, on va dire, Thomas, ouais, et le nom de jeune fille de ma mère. Ouais, j'ai voulu réunir les deux quand mon père est décédé, j'ai décidé de réunir les deux dans ce nom d'artiste.
Eh bien, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, plein de succès avec ton album, que là, je vais devoir regarder mes notes parce que le citer en entier.
Que je le fasse.
Non, je vais le faire. Voilà. De ton dernier album, L'intrigant braquage de la place Vendôme et autre histoire fascinante. Ouais. Je crois que c'est le nom d'album le plus long.
Non, peut-être en chanson française, il doit y avoir plus long, mais le plus long que j'ai jamais vu, c'est un album de Fiona Apple. Tu iras voir son deuxième.
J'irai voir après. Ouais. Et comme c'est la tradition ici, dans le podcast normand, le dernier mot revient toujours à l'invité. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire qu'on n'aurait pas abordé tous les deux, cher Thomas Brenner?
Qu'on n'aurait pas abordé. Eh bien, j'aurais envie de dire à tes auditrices et à tes auditeurs, soyez heureux. Voilà, soyez heureux, voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez les petites choses qui rendent heureux dans la journée, parce qu'il y en a toujours. Et c'est une question que j'ai posée, c'est quelque chose que j'ai dit pendant mon concert, au début du concert, je suis heureux d'être là, êtes-vous heureux? Posez-vous la question, suis-je heureux?
Merci du fond du cœur, Thomas Brenner. Merci pour ce bel entre-échange.
Merci à toi, Marie.
J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Thomas Brenner sur son site internet thomasbrenner.com. À la prochaine dans le podcast normand.